Chose promise, chose due, c'est la rentrée. Il a mis sa carnassière sur son vélo et il nous a rejoint. Voici Emmanuel Roquette pour parler, ben, forcément, rentrée littéraire et d'un livre en particulier. J'ai déjà un petit teasé, hein, Emmanuel, ce matin, donc on sait déjà de quoi on va parler. On vous attend, en fait. Enfin, nos auditeurs vous attendent.
Oh là là, c'est le stress de la rentrée monte.
Voilà, c'est ça. Donc, rentrée littéraire, un moment adoré ou détesté, suivant le cas, par les libraires. Adoré parce que forcément il y a du nouveau spec pour son bec, et détesté parce que putain, toutes ces références.
Adoré et détesté, c'est vrai, c'est un moment qu'on adore détester, qu'on déteste adorer, genre un peu un moment coupable. Comme ça. C'est un peu comme ces enfants à qui les parents proposent d'aller dans un immense magasin de bonbons un jour, alors que pendant toute l'année ils gardent précieusement la clé de l'armoire dans laquelle ils rangent quelques friandises. Comme ça, c'est un peu ça. Donc il y a ce côté effectivement un peu excitant. Enfin, même très excitant, et puis en même temps écœurant. Et puis aussi un côté très, très énervant. Et ça, je trouve particulièrement ces dernières années. Et ça a tendance à le devenir encore plus cette année, parce que les éditeurs connaissent une situation très, très difficile cette année. Hein. Le secteur du livre ne se porte vraiment pas bien, tout domaine confondu. Hein. Les fournisseurs, les distributeurs, les libraires, les éditeurs, les auteurs.
Même l'imprimerie.
Et même l'imprimerie, bien entendu. Tout ça a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne du livre. Et donc, les éditeurs, voyant cela, se servent de l'événement central de l'année littéraire, la rentrée littéraire, pour essayer de se rattraper un petit peu. Et donc, forcément, ça crée un peu des embouteillages au portillon. Et donc il y a une forme de préparation des éditeurs, enfin, ils essayent de préparer le public, les lecteurs, mais également la presse, à ce qui va sortir chez eux, dans leur précaré, et donc avec des batailles médiatiques qui sont préparées de longue date par ceux-ci. Le problème, c'est que les médias sont un petit peu dans la même situation, médias tout type confondus, hein, que ce soit des médias bien installés ou des médias, des blogs par exemple, etc. Et donc chacun a absolument besoin de, croit-il du moins, parler, de ne pas rater absolument le chef-d'œuvre de la rentrée littéraire. Et donc ça crée des embouteillages de ce côté-là aussi. Donc la conjonction des deux fait que, bien entendu, on parle tous exactement de la même chose, et cette chose n'est pas forcément la meilleure. Donc ce côté-là est quand même assez énervant pour les libraires qui voient arriver justement l'entièreté des catalogues.
A contrario, je dirais que justement parce qu'il y a de plus en plus de livres, et notamment de traductions, on peut faire découvrir de nouveaux auteurs.
Oui, malheureusement, souvent, à la fois d'ailleurs les éditeurs comme les médias ont un peu le même réflexe, c'est-à-dire la vente, croit-il, ne va pas se faire sur quelque chose de nouveau, qui rendra curieux le lecteur, mais sur quelque chose qui existe déjà et dont ils ont déjà pu mesurer qu'ils avaient des succès. Et donc, il y a à boire et à manger dans cette amas soudain de livres. Ceci dit, franchement, c'est quelque chose qu'on adore détester. Ça fait bien aussi de détester ce genre de grand-messe, que ce soit dans le secteur littéraire ou dans d'autres secteurs culturels ou non. Il faut quand même avouer qu'il y a quand même aussi ce côté excitant. Et puis, on découvre des choses vraiment exceptionnelles.
Est-ce qu'un des problèmes n'est quand même pas aussi qu'il y a de moins en moins d'émissions culturelles au sens strict du terme? C'est-à-dire, le livre est partout, ça c'est incontestable. La plupart des travaux des journalistes de médias audiovisuels s'appuient sur le livre, ok, d'accord. Mais pour parler spécifiquement, par exemple, de littérature, les émissions disparaissent les unes après les autres, quand même.
Oui, ou alors d'autres se créent, mais qui, finalement, se focalisent tout un peu sur la même chose. C'est ce que je disais, finalement. Les médias ont d'abord, avant tout, besoin, croit-il, hein, je pense que c'est une erreur fondamentale. Si c'est une solution, c'est une solution qui ne sera qu'à court ou à très moyen terme, mais jamais à long terme. Les médias ont besoin, croit-il, de se focaliser sur ce dont tout le monde va parler, ou ce dont tout le monde parle déjà, et donc ce à quoi tout le monde s'intéresse déjà. Et donc oui, effectivement, ça réduit le terrain à portion congrue pour certains domaines des arts ou pour certains domaines de la littérature. Par exemple des émissions de poésie. Il y en avait d'excellente qualité auparavant. Jusqu'à 2-3 ans, il y en avait encore une d'excellente qualité. Tout ça a disparu. Ou alors, si elles n'ont pas disparu, la poésie est peut-être devenue parfois la bonne conscience de certaines émissions. Mais c'est plus du tout... On n'utilise plus ces émissions pour faire découvrir des choses, mais plutôt pour parler de ce qu'on croit, dont tout le monde a envie de parler. Ce qui, je pense, est assez faux. D'où cette émission merveilleuse.
Oh. Mais de toute façon, pour une fois, on ne va pas parler poésie ici. Enfin, quoique, il y a une certaine poétique à l'écriture de Pierre de Marty. Oui, parce que vous êtes venu avec un petit livre jaune des éditions Verdier. Ça, les gens associent déjà jaune-verdier. Un roman, bon, vous voyez, disons, appelons ça comme ça. Ce que j'adore, moi, en fait, avec les éditions Verdier, c'est que si on lit le quatrième de couverture, et je l'ai fait tout à l'heure sur cette antenne, pour vous annoncer, Emmanuel, évidemment, c'est la littérature qui est mise en avant, les mots, l'écriture. En tout cas, on ne nous tape pas une biographie de l'auteur en nous disant qu'il a eu tel prix, qu'il a eu... Enfin, en l'occurrence, il n'en a eu aucun, donc je ne sais pas. Mais je crois qu'il a déjà été édité au Seuil, Pierre de Marty. Donc voilà, c'est pas un inconnu complet. C'est un livre qui vous tient particulièrement à cœur, Emmanuel.
Oui, parce
que... Vous m'en avez parlé off avec... Un trémolo dans la voix.
Oui, et puis aussi en off, c'est un livre qui pose des questions. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'est pas parfait, mais dont je trouve le projet absolument exceptionnel et réalisé pas parfaitement, mais suffisamment bien que pour que les questions qu'il pose soient vraiment essentielles et très très importantes à poser. Je pense particulièrement à cette époque, justement. Mais Pierre de Marty n'est pas complètement un inconnu, effectivement. Et le fait que sa biographie ne soit pas renseignée sur le quatrième de couverture est important pour la lecture du livre elle-même, en fait. Et ça, je pense que Verdier le savait particulièrement. Mais c'est vrai que Verdier, la plupart du temps, c'est mettre la littérature en avant, les mots, la poésie en fait, hein, c'est ça que c'est, avant de mettre en avant le contexte, les prix, le flonflon et le mondain que l'on peut retrouver autour d'un livre et d'un auteur.
Et pourtant, et vous me tendez la perche, il y a un véritable contexte ici, puisqu'il est question d'images et d'images que nous avons tous vues, puisqu'elles ont été sur les réseaux sociaux, dans les médias, enfin, il est question de deux images, et une de ces deux images, en tout cas, je suis sûr que quand nous allons l'évoquer, tous nos éditeurs vont dire « Ah oui, cette image, je l'ai vue ».
Oui, avant de l'évoquer, eh ben justement, je vais revenir sur Pierre de Marty. Un petit élément biographique qui est très important et très intéressant à dire pour mettre justement en contexte ou pour introduire une forme de contrepoint par rapport à l'histoire. En fait, Pierre de Marty, il est né en 1976, c'est un Français. Il a enseigné pendant 2 ans à la Columbia University aux États-Unis, la littérature française. C'est quelqu'un qui donc connaît très très bien l'anglais et qui était traducteur. Il est toujours traducteur d'ailleurs. Il a traduit notamment un livre que je vous engage vraiment à lire, j'en toucherai deux mots parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un livre de Paul Harding qui s'appelle Les Foudroyés, qui est un livre qui est sorti aux États-Unis chez un tout petit éditeur et qui a eu, à la surprise générale, c'était la première fois que ça arrivait, qui a eu, alors je ne sais plus, je me suis mal renseigné, mais je ne sais plus si c'est le prix Pulitzer ou le National Book Award, je pense que c'est le Pulitzer, et donc ça a été vraiment un événement, un tout petit livre chez un tout petit éditeur qui est ce prix-là, et c'est un livre absolument exceptionnel. Je vous engage vraiment à le lire. Il a sinon aussi traduit, Pierre de Marty, des ouvrages de William Volman ou de Joan Didion. Il a également une fonction d'éditeur. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il a 3 enfants et qu'il vit à Paris. Ça a des répercussions sur le livre. Alors, le livre, effectivement, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, elle est... En tout cas, l'intrigue est extrêmement simple, on dirait. Presque, il n'y a pas d'intrigue, il y a plutôt une forme de trame, comme ça. C'est un roman en île, donc il y a un narrateur qui raconte l'histoire d'un personnage, d'un homme, qui est un île, qui ne sera jamais nommé, c'est très important, et qui doit partir en vacances, mais avant de partir en vacances, il doit d'abord encore rester une semaine à son travail, on ne sait pas ce qu'il fait, il est au travail.
On pense à 7 ans de réflexion un peu, la première scène, là où il emmène ses enfants et sa femme à la gare. Et on se dit, tiens, on va rire un peu ici.
Oui, rire, ou alors on se dit, ah, ça pourrait être un bon début pour un thriller glauque comme ça. Donc ses enfants partent avec son épouse en vacances. Et donc lui, pendant une semaine, il va continuer à travailler. Bon, il s'ennuie un peu, il se sent un peu seul, il a envie de rejoindre ses enfants. Donc un soir, qu'est-ce qu'il décide? Il va aller au cinéma. Il entre dans une salle de cinéma. et il choisit un film. Enfin, c'est presque comme s'il ne choisissait pas, d'ailleurs. C'est presque inconscient. Il voit l'affiche, il se dit « Oh, c'est peut-être cool. » Il y va, il rentre, il regarde le film. Et pendant ce film-là, il y a une image qui va absolument le bouleverser. Il va verser en larmes quasiment directement. C'est quoi cette image? Eh bien, on y voit des parents. Enfin, on sait que c'est des parents qui, à la suite de leur chien, vont plonger dans les flots d'une mer déchaînée et vont disparaître. Et la caméra va se focaliser sur un enfant, leur enfant, qui est très jeune, qui est tout petit, qui n'arrive pas encore à marcher, un an sans doute, quelque chose du genre, et qui se met à hurler en observant donc ses parents se noyer dans les flots. Alors cette image vraiment le bouleverse complètement, il est tétanisé pendant le reste du film en fait, il rentre chez lui, il passe une nuit très difficile, quasiment d'insomnie, le lendemain il se rend à son travail, il en part très tôt, il erre en ville, et il décide subitement, comme ça, un coup de tête, d'aller rouler toute la nuit pour aller retrouver ses enfants et sa femme.
La vision de ce film, enfin des images de ce film, de l'enfant sur la plage abandonnée, agit sur lui un peu comme un révélateur. Un homme qui n'est pas proprement connu pour avoir des émotions en a une immense et prend conscience, mais une telle conscience qu'elle va vraiment perturber sa vie.
Alors, c'est un révélateur de ce qu'il porte en lui, mais c'est aussi un préparateur d'autre chose. Et c'est peut-être là encore que ça prend une dimension supplémentaire. Car en fait, donc, il va rejoindre ses enfants dans cette maison de vacances, et puis le temps va passer. On ne sait pas très bien combien de temps exactement. J'aurais pu vérifier en mesurant certaines données, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, quelques temps après, il va tomber sur une autre image statique, celle-là, hein, une image de magazine, je pense qu'il la voit sur Internet. Hein.
Mais c'est celle-là dont je parlais tout à l'heure.
Tout à fait, une image très connue, on en touchera un mot après. Mais, et donc cette image représente un enfant également sur une plage, comme le premier, plus âgé celui-là, 4-5 ans, le visage tourné vers le sable, les pieds plantés droit dans le sable, c'est une image qu'il développe particulièrement dans le livre et qui est particulièrement frappante. Il a bien saisi le caractère dramatique, tragique, terrifiant, horrible de cette image. Et cette image, en fait, tout simplement, va lui rappeler... Cette image-là n'est pas une image de fiction comme la première, c'est une image de réalité. Et ce qui va lui revenir en pleine figure, c'est la première image qu'il avait vue, cette image dynamique de fiction. Et là, ça va de nouveau déclencher le souvenir, la vision de cette image qui va déclencher le souvenir de la première, va déclencher un bouleversement aussi dans son intimité et dans sa vie également. Donc voilà, donc intrigue extrêmement simple, tout ça sans aucun nom. Donc lui n'est pas nommé, ses enfants ne sont pas nommés, pas sa femme, pas le contexte en fait. Donc on a un contexte. Le film, on ne sait pas ce que c'est. L'image dont il...
Le nom du petit garçon. Que tout le monde connaît maintenant.
Que tout le monde connaît. Mais tout cela n'est pas nommé. Donc on a un contexte minimal qui existe, une trame, une intrigue minimale. Mais tout cela est vraiment extrêmement minime. Et c'est très très important dans l'économie du livre que ça reste minime. Et pourtant, effectivement, même si c'est minime, même si c'est pas nommé, ces images, on les connaît. Alors... Pour la première, elle est peut-être un peu moins connue. Moi, je ne la connaissais pas, mais je connais pas mal de personnes qui savaient de quoi il s'agissait. On va le dire, je pense que c'est important de le dire.
C'est la photo du petit Aylan.
C'est la photo du petit Aylan. Ça, c'est cette photo statique, donc cette photo de dramatique, bouleversante de cet enfant syrien mort sur une plage, dont on devine tout de suite qu'il est mort en la voyant, qui a bouleversé pas mal de choses aussi dans la réalité, qui a quand même changé, je pense, en partie le regard que l'on peut poser sur le problème, entre guillemets, des réfugiés, et surtout sur le problème de l'accueil que l'on pouvait y faire en Europe. Bon, on est vite retombé dans la réelle politique, si on veut dire, ce qui est bien malheureux. Mais en tout cas, ça a quand même changé et bouleversé pas mal de choses. Et puis la première image, qui est une image tirée d'un film qui s'appelle Under the Skin, qui est un film de Jonathan Glazer avec la célèbre Scarlett Johansson, qui est appelée dans le livre Le petit garçon sur la plage, qui est appelée la starlette. Hein, c'est assez... Donc voilà, il faut pas nommer. Et donc, qui montre effectivement un enfant hurlant devant une plage, sur une plage devant le spectacle de ses parents qui se noient dans les flots. Et donc on a effectivement, comme vous le disiez, une image dynamique, une image statique, un père qui les regarde et En gros, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec ça, Pierre de Mathieu, ou plutôt qu'est-ce qu'il réussit à faire de manière assez fascinante? C'est qu'il nous montre que tout commence par un œil, en fait. Tout commence par un regard. C'est un regard que l'on porte sur les choses, qui est à l'initiative et qui est à l'origine du premier rapport que l'on peut avoir au monde, en fait. Ce père va voir cette image de fiction, et cela, c'est ce regard-là qu'il va porter sur le monde qui va complètement changer ce regard sur le monde. Ce que montre Pierre de Marty, c'est que si on n'essaye pas de comprendre ce premier regard, de comprendre cette première image, de comprendre l'action de cet œil, eh bien, finalement, quelque chose va nous échapper du rapport, du reste du rapport que l'on peut avoir avec le monde. Et donc, ce livre qui, finalement, on pourrait dire, s'intéresse ou s'intéresserait à un élément qui a déclenché des polémiques, cette image, le traitement que l'on en a fait, ne s'intéresse pas à ça. Il reprend ce contexte-là de manière minimale, sans le nommer. C'est pour ça que c'est important de ne pas le nommer, puisque sinon on risque de verser déjà dans un discours sur la polémique. Eh bien, c'est vraiment, il ne s'intéresse pas à ça, il s'intéresse au regard que l'on jette. Et ce qui est très intéressant, deuxième chose qui l'intéresse, c'est l'interaction entre la fiction et le réel. Qu'il va arriver à cet homme, c'est d'être bouleversé par une image de fiction qui, effectivement, comme vous le disiez, révèle chez lui quelque chose qui était endormi, son rapport de père, l'émotion qu'il peut y avoir entre un père et un fils. Mais surtout, cette image de fiction va le préparer à la réception de l'image du réel. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui montre de manière absolument magnifique et de manière très très juste, c'est que la fiction, quand bien même elle paraît s'éloigner de manière absolument radicale du réel, et le film Under the Skin est vraiment dans ce cas, c'est quelque chose, c'est un film, on pourrait le dire,
fantastique,
de science-fiction, oui, vraiment, enfin, on sent qu'il y a un écart radical pris avec le réel, et bien même une image comme ça, elle nous permet de préparer notre rapport au réel, et de le changer également.
C'est effectivement, pour ma part, enfin c'est comme ça que je l'ai pris, un texte littéraire, alors dans une langue d'une poésie incontestable, sur l'effet que peut vous faire la fiction, le cinéma. Tout le monde a connu ça un jour dans sa vie, enfin j'espère que tout le monde l'a connu, en tout cas je pense que tout le monde l'a connu.
Disons que c'est dangereux de rencontrer quelqu'un qui ne l'est pas connu.
Voilà,
peut-être.
C'est ça, on entre dans une salle de cinéma et tout à coup, on s'identifie, enfin, on entre tellement dans, et ça peut arriver avec un documentaire comme avec une fiction, mais bon, dans la fiction, évidemment, c'est encore souvent plus fort puisque c'est supposé ne pas être réel et donc l'empathie vis-à-vis du réel devrait en principe être plus forte que celle qu'on a vis-à-vis d'un personnage écrit, inventé. Et tout à coup, on fond en larmes.
Oui,
qu'on soit un homme, une femme, un enfant, un grand-père, enfin voilà, on fond en larmes. Et c'est un livre sur ça quand même.
Oui, bien sûr. Et c'est d'où l'importance de ne pas nommer. Si on nomme les choses, si par exemple Pierre de Marty, plutôt que le « il » avait utilisé le « je » et que ce « je » avait été, avait gommé quelque part, parce que c'est aussi le... C'est aussi une technique narrative très très bien maîtrisée, ce livre. Le jeu, on peut garder une distance entre le narrateur et l'auteur, comme on peut tout simplement la réduire. Le fait de mettre un il, le fait également que le personnage du livre ait deux enfants et pas trois comme Pierre de Marty, ça crée des distances et ça permet tout à fait une empathie. Ça permet aussi alors une forme de suspense, puisque quand il nous décrit l'image, on va s'acheminer vers la conclusion en soi. Ah ben oui, cette image, je la connais, c'est Ellen. Donc il y a une forme, on utilise finalement les ficelles de la narration, les ficelles de la fiction pour préparer au réel. Il y a quelque chose d'encore plus fort dans ce livre qui est de l'ordre de la mise en abîme. C'est-à-dire que, comme je le disais, le personnage va être préparé à réceptionner une image de la réalité par la fiction, par cette image de la fiction. Mais le livre s'appelle « Le petit garçon sur la page », sur la plage, pardon, comme, il serait plus sur la page aussi, « Le petit garçon sur la plage », comme finalement ce dont il parle. Et donc, la fiction va préparer, la fiction du film va préparer, la fiction du film Under the Skin va préparer à la vision du petit Elan sur la page, qui est une image réelle, et puis le petit garçon sur la plage, le livre, va permettre de vivre avec ces images-là, de vivre avec ces images, avec cette interaction, cette conjonction et cette confrontation entre le réel et la fiction. Et donc c'est aussi ça le rôle de la fiction, c'est de préparer effectivement au réel, mais c'est aussi d'y permettre d'y vivre. Alors, sans nier, bien entendu, ce qui s'est passé, ou sans nier ce qu'on a vu, sans nier Hélène, etc. Mais c'est ça aussi le rôle de la fiction. Et donc, dans ce livre qui est à la fois une fiction sur le regard, c'est aussi un regard sur la fiction et ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut amener, ce qu'elle peut bouleverser. Et cela, bien entendu, en bouleversant, parce que l'empathie est nécessaire. Ce qui fait aussi, et ça c'est quand même quelque chose, donc il n'est pas dans cette réflexion par rapport à la polémique, mais finalement ce qu'il montre, c'est qu'il existe vraiment, et de manière absolument géniale, un moyen terme très très utile, et je pense que le moyen terme, et je pense que lui le pense aussi, le moyen terme est beaucoup plus important que les deux extrêmes. Il existe un moyen terme entre le cynisme avec lequel on peut traiter cette image, on l'a vu détourner, à des fins d'ailleurs qui peuvent être extrêmement utiles, politiques, intéressantes et vraiment importantes au moment même, mais qui peut quand même être parfois légèrement putassier, il faut bien l'avouer.
Enfin, voyeuriste en
voyeuriste cas. En tout cas. Oui. Et puis par contre, le sentimentalisme béat, en fait, même si le sentiment, c'est important aussi de pleurer devant cette image. Mais ce qui montre, c'est qu'il y a un moyen terme entre les deux, où la fiction a vraiment sa part à jouer. Et il le montre de manière extrêmement intelligente et intéressante.
Alors, deux éléments, Emmanuel, encore, parce que le temps avance et nous sommes soumis à la dictature de la toquante. est-ce qu'on peut vraiment entrer complètement en empathie avec ce texte, qui n'est pas un texte si facile que ça, hein, on en parlera après. Si on n'est pas père de petits garçons, voilà, pour dire les choses comme ça. Parce que j'ai lu le livre, évidemment vous me l'aviez un peu décrit, et effectivement, par exemple, moi personnellement, j'ai perdu mon père il y a 2 ans, et j'ai été plus sensible à la fermeture de la maison de famille que, à la limite, à la relation aux petits garçons. Parce que je n'ai pas de garçon moi-même, peut-être. Est-ce que ça ne joue pas sur cette dynamique-là, quand même, un peu bon, au-delà de la qualité littéraire du livre.
Alors, je pense que, j'en suis même certain, je suis certain que Pierre de Marty avait conscience de cela dans ce livre. Les sentiments dont il fait état dans ce livre sont des sentiments que moi j'ai ressentis aussi quand j'ai vu cette photo du petit Elan. Je pense que là, il est très fort. Et effectivement, le fait d'avoir un fils plutôt qu'une fille influe sur l'ampleur du bouleversement qui a pu être le mien et qui a pu être celui de Pierre de Marty. Je pense que c'est indéniable. Mais il en a totalement conscience, d'où ces 2 enfants au lieu de 3 par rapport à la réalité. Mais c'est vrai que oui, indéniablement, en tant que...
Rassurons nos amis féministes, ce n'est pas un livre masculiniste, hein, du tout. Hein,
ni machiste d'ailleurs, il n'y a rien, je ne sais même pas. Non, c'est mais effectivement, je pense que c'est évident. Quand on lit un livre dont l'héroïne ou dont le héros, dont le personnage principal sera une héroïne, on sera peut-être moins affecté si on est un homme qu'une femme. Enfin, ce sont des choses qui sont sûres. Effectivement, ici, avec le sujet et avec les correspondances qui arrivent au héros par rapport à ce qu'il voit dans la fiction et par rapport à ce qu'il voit dans la tragique réalité, oui, c'est indéniable qu'on sera peut-être encore plus bouleversé quand on est le père d'un fils que si on n'est pas père ou que si on est père d'une fille. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment... ça fait partie de son analyse aussi. Ce qui fait partie de son analyse aussi, c'est la catharsis que peut être la fiction. On sent que ce livre, le livre de Pierre de Marty, qu'il l'a écrit quelque part pour qu'il ait une fonction cathartique pour ce qu'il ressentait lui-même face à cet objet. Il se sentait l'obligation et l'intelligence d'y réagir sans que ça verse ni dans le cynisme, ni dans le sentimentalisme. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'écrivain, pour me protéger de cela, pour en faire quelque chose, moi, qui me serve à moi, mais qui serve aussi au plus grand nombre, que ce soit une analyse qui déborde tout simplement le cadre de la polémique.
Alors, parlons de la langue, pour terminer.
Ah, la langue est magnifique. Hein, chez Verdier, on est souvent dans une... C'est un éditeur qui édite Pierre Michon. Alors Pierre Michon, c'est un auteur culte pour ceux qui le connaissent. C'est un auteur rare aussi, malheureusement. Il écrit très peu de livres et souvent très très petits. Mais c'est une langue très... C'est très difficile de la définir. Il y a un côté presque 18e-miste, classiciste, comme ça, goulayante. J'avais entendu ce terme aussi. Il y a un peu de ça, une langue très, très recherchée, très belle, assez... Il faut rentrer dedans, mais c'est vraiment une langue somptueuse. Et donc, parfois, chez Verdier, on retrouve certains gimmicks, on va dire, de Pierre Michon. Et parfois, ça fait un peu trop. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. Et ça, c'est assez rassurant, tout en étant de la littérature française contemporaine d'exception, je pense. On est dans une langue qui est en scansion, en répétition, très souvent. Une langue un peu... c'est le petit garçon sur la plage qui pourrait presque traduire un flot qui revient sur une grève comme ça, dont les flots vont nettoyer le sable sans arrêt, et donc qui va rapporter chaque fois comme un grain de sable eh bien, un mot, une situation, une émotion supplémentaire. Je peux citer un court extrait, hein, je pense que ça peut donner une idée de cette langue. « Si l'image se mettait à bouger, à s'animer, la mer à aller et venir sur le sable avec le bruit que fait la mer, et le vent à souffler avec le bruit que fait le vent, emportant peut-être le sac en plastique bleu ciel qui s'envolerait et disparaîtrait peut-être hors du cadre de l'image, dans le ciel, mais dans cette image il n'y a pas de ciel, peut-être alors on verrait à peine la tête soulevée puis reposer encore et encore, comme bercée lentement, plusieurs fois, régulièrement, par le mouvement très doux des vagues, mais même alors, même si tout le reste, tout autour de ce petit corps de petit garçon, se mettait même lentement à bouger, rien d'autre, rien de ce corps lui-même ne bougerait. Et on verrait alors, on verrait bien, on comprendrait tout de suite qu'il n'y a que la mer qui bouge, que le corps du petit garçon, couché sur le sable et sur l'eau, et dans l'eau, lui, est bougé, mais ne bouge pas.
C'est de la poésie, hein.
C'est...
Je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs, moi, pour certains passages du livre, ceux qui sont plus dans la répétition, je me suis astreint à les lire tout haut pour justement être sûr de bien les vivre, oui. dans leur rythme, parce que bon, c'est vrai que l'œil parfois ne suit pas exactement.
Oui, parce qu'on est dans des phrases très longues avec une très grande économie des points, hein, et qu'on sent peut-être difficilement à la lecture telle que je viens de faire. Il faudrait presque mettre plus de points quand on le lit à voix haute que quand on le lit comme ça pour saccader un peu la phrase. Mais oui, c'est de la poésie. Et c'est une des réflexions qu'il a. Quand on a l'image simple, l'idée aussi, c'est de ne pas laisser l'image... dicter son diktat. Ça fait un peu redondant, ça, mais laisser dicter sa loi. Les mots sont là aussi pour ça.
Oui, c'est presque un travail de sémiologie. Hein.
Clairement, ah oui, tout à fait. C'est ça, c'est une analyse de l'image, c'est une analyse de l'esthétique. En fait, ces problèmes qui sont foncièrement politiques, l'esthétique apporte quelque chose qu'il n'est pas bon de laisser uniquement au réel, en fait. Il faut vraiment... La fiction a tout à fait son mot à dire, c'est le moins qu'on puisse dire, pour parler de l'image. Le mot est important. L'image ne doit pas être laissée seule, en fait.
Ce livre s'appelle « Le petit garçon sur la plage ». Il est de Pierre de Marty, 120 pages d'une écriture ciselée, vraiment un vrai plaisir des sens. L'œil, évidemment, l'oreille également. Voilà, merci Emmanuel.
Merci Alain.
Et à bientôt.
J'espère.